Laudetur Jesus Christus.
Une homélie en trois langues pour s'adresser à la jeunesse du monde entier. Le pape a clos le jubilé des jeunes hier lors d'une messe à laquelle a participé plus d'un million de personnes venant de 146 pays. Léon XIV, nous l'entendrons, invite cette jeunesse à regarder vers les réalités d'en haut. Et après une telle semaine jubilaire, que rapporter chez soi pour chérir cette expérience? Les jeunes nous livrent le bilan de leur jubilé. Dans ce journal, nous irons également à Beyrouth, 5 ans jour pour jour après l'explosion du port de la capitale. Et puis dans l'enclave palestinienne, une maigre aide humanitaire tombe du ciel. Nous verrons pourquoi cette méthode de parachutage de colis de nourriture est problématique.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. Rome se réveille presque calme et vide ce matin. Les plus d'un million de jeunes présents pour leur jubilé, point d'orgue de cette année jubilaire, quittent progressivement la capitale italienne. La tête et le cœur pleins de joie et d'espérance. Il faut dire que ce qu'il s'est passé ce week-end dans la plaine de Tor Vergata est un moment de communion, comme il en arrive très peu par génération. Je vous le disais, les jeunes étaient plus d'un million en prière avec le pape hier matin. Léon XIV a présidé la messe de clôture, entouré aussi de 450 évêques et pas moins de 7000 prêtres. L'atmosphère au jubilé était douce et fervente. Les précisions avec Delphine Allaire.
Vêtu d'un habit liturgique vert et or, le pape de 69 ans a fait entrer une marée humaine de plus d'un million de jeunes fidèles dans une célébration eucharistique géante sur un site historique. Là où, lors du grand jubilé de l'an 2000, Jean-Paul II demandait aux jeunes de transmettre l'évangile au troisième millénaire. 25 ans et une génération plus tard, Léon XIV les prie au cœur d'une nouvelle année sainte d'étancher leur soif spirituelle par la vraie rencontre avec Dieu. Ne trompons pas notre cœur en essayant de l'apaiser avec des substituts inefficaces, a prévenu l'évêque de Rome, rappelant aux jeunes la conscience de la finitude et des limites. Nous sommes comme un pré en fleurs, fragile et délicat, mais se renouvelant continuellement, poursuit-il dans une homélie pleine de poésie, puis d'interpeller les cœurs sur le vrai sens du bonheur.
La pienezza della nostra esistenza non dipende da ciò che accumuliamo, né da ciò che possediamo. Comprare, ammassare, consumare non basta.
La plénitude de notre existence ne dépend pas de ce que nous accumulons ni de ce que nous possédons. Acheter, accumuler, consommer ne suffit pas. Nous avons besoin de lever les yeux vers les réalités d'en haut, a lancé le pape. Une seule espérance nommée Jésus, en laquelle tout placer, grâce à la prière, l'adoration, la communion, la confession ou la charité, égrène Léon, adressant une dernière invitation qui résonne aux quatre coins de la plaine romaine. Aspirez à de grandes choses, à la sainteté où que vous soyez. Ne vous contentez pas de moins.
Delphine Allaire. Et ce week-end, la plaine immense de Tor Vergata en périphérie de la capitale italienne s'est transformée en camping géant. Après une semaine de jubilé dans Rome, les jeunes ont posé matelas, tapis ou simples serviettes à même le sol pour dormir sur place après la veillée samedi soir. Veillée au cours de laquelle Léon a répondu des questions portant sur l'amitié, le courage de choisir ou encore la rencontre avec le Seigneur. Une soirée et après-midi ponctuée de concerts, la nuit fut courte sous les étoiles. Et hier matin, dès 7h30, le pape déambulait entre les allées de Tor Vergata en papa mobile, prenant longuement le temps de saluer les jeunes. Sur les visages fatigués se lisaient tout de même les sourires. Et parmi cette foule jubilaire éclectique, 146 pays représentés au total, un groupe d'une cinquantaine de personnes de la mission vietnamienne de Paris, ils nous dressent le bilan de leur jubilé.
Si je devais en choisir un des temps très très forts, je pense que c'est la veillée ici. Le silence qu'il y a alors qu'il y a énormément de monde, c'est assez incroyable, notamment durant la contemplation de l'Eucharistie. C'est dans ce moment-là où on vit vraiment quelque chose de très très fort. J'ai vécu les JMJ de Lisbonne un peu comme une grande aventure humaine, mais sans vraiment la spiritualité derrière. Et je m'attendais à quelque chose de similaire et pas du tout en fait. Et j'ai vraiment vécu quelque chose de spirituellement très très fort, avec de rencontres passées les portes saintes, l'adoration eucharistique hier et aujourd'hui la messe.
Durant ce jubilé, j'ai beaucoup appris euh, que ce soit sur ma foi, donc très personnelle. Et également, ça m'a beaucoup appris avec les personnes du monde entier, des jeunes d'Espagne, du Portugal, d'Italie, de l'Europe, mais aussi même de l'Asie. Hein. On a vu beaucoup de Coréens durant ce jubilé. Franchement, c'est beaucoup de force, c'est beaucoup d'espérance qu'on reçoit du pape. Là, nous sommes une nouvelle génération de technologies. On utilise des réseaux sociaux pour évangéliser. Et c'est ce qui nous permet justement de propager la bonne nouvelle dans le monde entier.
Le prochain rendez-vous pour cette jeunesse catholique, pour ceux qui le peuvent, seront les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. Elles auront lieu en Corée du Sud, à Séoul en 2027. Nous savions déjà le lieu, mais hier après la messe, le pape a annoncé la date. On l'écoute.
I giovani di tutto il mondo si ritroveranno insieme al successore di Pietro per celebrare la giornata mondiale della gioventù a Seoul in Corea.
Les jeunes du monde entier se retrouveront avec le successeur de Pierre pour célébrer les journées mondiales de la jeunesse à Séoul en Corée du 3 au 8 août 2027.
Dal 3 al 8 agosto 2027. Questa giornata avrà per tema Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo.
Cette journée aura pour thème Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Je vous donne donc rendez-vous à Séoul. Continuons à rêver ensemble, à espérer ensemble.
Vi do allora appuntamento a Séoul. Continuiamo a sognare insieme, a sperare insieme.
Et enfin, un dernier appel lancé par le pape lors de ce jubilé de la jeunesse, celui vers ceux qui n'ont pas pu venir à cause de la guerre dans leur pays. Nous sommes avec les jeunes de Gaza, nous sommes avec les jeunes d'Ukraine. Des mots acclamés par la foule sur place. C'était il y a 5 ans, dans le port de Beyrouth, une explosion changeait la face de la capitale libanaise. Ce soir, une veillée de prière aura lieu et Léon XIV a envoyé un message aux participants, on vient de l'apprendre. Le Saint-Père invite les Libanais à regarder vers le ciel, comme les cèdres, symbole du pays. Le pape qui, dans ce message aux Libanais, veut redire toute la compassion du Père à tous ceux qui ont le cœur meurtri, écrit-il, avant de confier la population et les religieux du Liban à l'intercession de la Vierge Marie et de Saint-Charbel. 235 personnes sont mortes lors de cette explosion, 6500 blessés et les séquelles de ce drame restent encore palpables aujourd'hui au Liban. Alors que la justice n'a pas encore été faite, la reconstruction reste inachevée. Hier, le ministre de la Culture, Hassan Salamé, a inscrit les silos de Beyrouth, structure emblématique de cette tragédie, dans l'inventaire général des monuments historiques. À Beyrouth, Paul Khalife.
La portée symbolique de la démarche de Hassan Salamé répond à une ancienne demande des victimes et de leurs familles, mais leur requête essentielle reste toujours insatisfaite. Que la lumière soit faite sur les origines et les causes de l'explosion des 2700 tonnes de nitrate d'ammonium entreposées sans précaution dans le port de Beyrouth. Si la thèse de l'accident est privilégiée depuis le début, rien n'a été encore dit officiellement. Les travaux des deux juges d'instruction qui se sont succédés ces 5 dernières années ont été entravés par les ingérences et les pressions politiques. Les obstructions à la justice sont surtout venues du Hezbollah et du mouvement Amal, du président du Parlement Nabih Berri. Les deux principaux partis chiites se méfiaient du juge d'instruction et estimaient que son action était suspecte, partiale et politisée. Depuis l'élection de Joseph Aoun à la présidence de la République et la nomination de Nawaf Salam au poste de Premier ministre au début de cette année, les choses semblent avoir changé. Le juge Tarek Bitar, dont l'enquête était bloquée depuis plus d'un an, a repris ses auditions et a délivré de nouveaux mandats d'arrêt. L'acte d'accusation pourrait enfin être publié dans les semaines ou les mois à venir. Paul Khalife, Beyrouth. RFI pour Radio Vatican.
Un nouveau drame de l'immigration au large du Yémen. Au moins 68 personnes sont mortes, noyées lors d'un naufrage. Mais le bilan pourrait être bien plus meurtrier. Le bateau voyageait avec 157 passagers, probablement partis de la Corne de l'Afrique pour rejoindre le Yémen. Donald Trump confirme la visite de son envoyé spécial Steve Witkoff en Russie, prévue pour mercredi ou jeudi, après avoir fixé un ultimatum au président russe pour mettre fin, dit-il, à la guerre en Ukraine. Le président américain qui donne jusqu'à la fin de cette semaine à son homologue russe pour prendre des mesures pour que le conflit cesse, sous peine de nouvelles sanctions, dit-il. vous le disais, le papa a tenu à avoir une pensée pour les jeunes de Gaza hier matin après la messe de clôture du Jubilé des Jeunes. C'est dans l'enclave palestinienne que nous nous rendons ce matin dans notre dossier où la faim et la soif se propagent. Sous pression de la communauté internationale, Israël autorise depuis une dizaine de jours des largages aériens d'aide humanitaire. Plusieurs pays dont les Émirats arabes unis, la Jordanie, la France, le Royaume-Uni, la Belgique ou encore l'Allemagne ont déjà largué des dizaines de tonnes de vivres par avion. Une méthode cependant critiquée par les organisations humanitaires mais également par des responsables de l'ONU parce qu'elle est coûteuse, risquée et surtout ne peut en aucun cas remplacer les livraisons terrestres. C'est ce que nous explique ce matin Amande Bazerolle. Elle est responsable des opérations d'urgence de MSF Médecins Sans Frontières à Gaza.
Donc aujourd'hui, on parle de 2 millions de personnes qui sont en besoin d'assistance humanitaire. Ça représente énormément d'argent et d'investissements qui coûteraient beaucoup moins cher si c'était fait par la route, sachant qu'on est à 20 minutes et que les camions attendent pour rentrer. On ne connaît pas les bénéficiaires, sachant qu'aujourd'hui, seuls 15% du territoire est encore accessible à Gaza, aux populations, où ils ne sont pas plus en sécurité qu'ailleurs, sauf que personne ne leur tire à but. Donc aujourd'hui, les largages ont lieu soit dans des zones extrêmes peuplés, voire surpeuplés, soit à des endroits où ils n'ont pas le droit d'aller. Et en plus, il y a une telle tension entre les populations pour pouvoir avoir accès à ces rares denrées qui rentrent sur le territoire. C'est déshumanisant parce que c'est vraiment les mettre dans l'attente à regarder ce qui va tomber et risquer en plus de leur tomber dessus puisqu'ils sont tellement nombreux pour si peu de colis qu'il y a effectivement un risque de bousculade pour pouvoir y avoir accès.
Pourquoi ces largages d'aide humanitaires à Gaza sont jugés inefficaces et dangereux?
Alors, ils ne vont pas contribuer à accentuer la famine, mais on ne sait pas qui les récupère. Donc, on n'est pas sûr que ça arrive aux plus nécessiteux. Donc, il n'y a pas de priorisation. Et puis surtout, il y a un très grand risque. La renutrition pour les gens qui n'ont eu accès à rien pendant très longtemps doit être accompagnée d'explications médicales. La renutrition peut être fatale pour les patients. Si ça n'est pas expliqué, il faut vraiment réintroduire la nourriture en très petite quantité, petit à petit. Sinon, il y a des vrais risques pour la santé et vraiment avec un risque de mort si ça n'est pas fait de manière adéquate. Donc il faut pouvoir accompagner la population dans la réintroduction de la nourriture aujourd'hui pour les plus malnutris et ceux qui sont dans un état le plus grave.
En marge de la reprise des parachutages d'aide, quelle est la situation humanitaire à ce jour dans la bande de Gaza?
Ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même des camions qui sont rentrés, mais le fait est qu'après 5 mois de blocus quasi intégral et d'une population qui est complètement affamée, il y a évidemment énormément de concurrence pour pouvoir avoir accès à de la nourriture, puisque on ne laisse toujours pas rentrer assez de camions. Aujourd'hui, tous les camions qui rentrent se retrouvent pillés par des populations complètement désespérées et qui ont trop peur d'être à nouveau laissés pour compte. Aujourd'hui, ça ne s'améliore pas. La nourriture veut dire mort. C'est vraiment que ce soit à la Gaza Humanitarian Foundation, que ce soit quand des humanitaires professionnels essayent de faire rentrer de l'aide humanitaire, puisque les autorités occupantes ne prennent pas des mesures pour pouvoir sécuriser l'entrée des camions, ou que ce soit par les largages aériens. Tout ça veut dire aujourd'hui risquer sa vie pour pouvoir avoir accès à de la nourriture. Et ceci est absolument inacceptable.
Les appels à l'arrêt du conflit dans la bande de Gaza se multiplient à travers le monde, alors que la famine sévit de plus en plus. Les humanitaires ont-ils les moyens de faire pression pour éviter une famine généralisée?
Il faut continuer à faire pression sur l'État israélien pour laisser rentrer l'aide. Aujourd'hui, qu'il rentre trop peu, on parle d'au minimum 600 camions par jour et de manière continue. Ce qu'il faut, c'est financer l'aide humanitaire. La plupart des pays ont décidé de réduire l'aide au financement quand on voit que toutes les crises se multiplient et notamment des crises extrêmement graves comme celle de Gaza. Ce qui est investi aujourd'hui dans les largages humanitaires serait beaucoup plus efficace si c'était fait par la route et en quantité suffisante. À nouveau, et les largages sont épisodiques. Pour nous, ça n'est qu'un moyen de se dédouaner de leurs responsabilités qu'ils n'ont pas assumées depuis tout ce temps pour faire cesser cette catastrophe qui est en cours à Gaza aujourd'hui.
Voilà, interrogée par Augustine Asta, Amande Bazerolle, responsable des opérations d'urgence de MSF à Gaza, était ce matin notre invitée. Merci de votre écoute. L'information revient tout à l'heure à 13h. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine.